Alors, aujourd'hui, on est en cours de MC.
Là, vous m'entendez ou pas, là?
Donc, c'est parti.
Et pourquoi ce sujet est particulièrement...
Du coup, c'est un podcast. C'est un podcast.
C'est pas vraiment une émission de radio.
Voilà, dans le retour micro, ça rend bien.
Alors là, on coupera ce blanc au montage. On démarre.
La classe de 607 du lycée Berthelot à Toulouse vous présente leurs enquêtes autour de la notion d'adelphité. Un travail accompagné par Emmanuel Degnaud et la radio Canal Sud.
Allez, nous voilà de retour avec les 607 du lycée Berthelot pour poursuivre notre exploration de l'adelphité et surtout leur exploration de l'adelphité. On va donc avoir Héloïse et Charline qui vont nous parler, en fait les deux groupes vont nous parler des sans-abri ou des sans-domicile fixe, chacun ou chacune avec son orientation problématique. Donc on va d'abord avoir Héloïse et Charline, et puis ensuite Mathilde, Raphaël et Myrtille, les unes et les uns se questionnant. Peut-être que Charline et Héloïse, vous voulez nous faire d'abord une petite présentation de votre sujet ou vous voulez qu'on passe directement aux questions? Qu'est-ce que vous préférez faire?
Une présentation?
Ouais.
Bonjour à tous.
Charline,
déjà, on imagine souvent la rue comme un endroit où le chaos et le désordre ainsi que l'isolement règnent. Mais en réalité, cette étiquette de sans-abri, c'est une réalité bien plus complexe. Il s'agit en effet d'une communauté organisée avec ses propres règles et ses propres solidarités. Donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est un paradoxe fascinant. En quoi la lutte contre la précarité est-elle un parti pris intéressant pour mettre en œuvre l'adelphité? Donc pour rappel, l'adelphité, c'est un lien qui unit plusieurs personnes partageant une même condition. Donc c'est un terme plus global pour désigner la fraternité et la sororité. Donc la précarité, c'est quelque chose de très important qui touche environ 10% de la population mondiale. Donc ça témoigne vraiment d'une grande détresse humaine.
Et du coup, pour commencer par le fait que c'est une société organisée et que ce n'est pas le chaos, en fait, il y a une idée reçue comme quoi c'est le chaos et il se passe un peu tout et n'importe quoi alors que c'est une société organisée. Par exemple,
tu parles de la société des précaires, c'est ça?
Oui.
D'accord.
Par exemple, ils s'approprient l'espace de manière logique, chacun à sa place. Ils forment même des duos de survie. Ils ne dorment pas n'importe où. Certains endroits sont à prioriser. Ils répartissent les postes de la manche, du coup ceux qui font la manche et ceux qui restent pour garder les affaires. Ensuite, ils ont une organisation très précise. Ils rythment leur journée par des circuits d'assistance, donc par plusieurs associations, par les postes qu'ils occupent dans la rue. Et voilà, l'adelphité, elle se dessine entre eux, car ils s'associent souvent pour se protéger mutuellement. Ça s'appelle des duos de survie. Voilà. Et on voit par exemple qu'il y a notamment plusieurs critères pour être respecté dans la rue, comme bien traiter son chien, payer ses dettes et ne pas se mentir.
Ok. Vous voulez poursuivre ou est-ce que vous avez des questions déjà à leur poser peut-être, non?
Pardon. Notre première question, ce serait comment votre texte il montre que la solidarité peut aider les personnes en situation de précarité?
Alors du coup, notre analyse... Elle montre que la solidarité, c'est le seul mécanisme capable de créer du sens, des liens et de la dignité dans un contexte d'abandon comme la rue, par exemple.
D'accord. Et justement, alors, elle vous parlait, Myrtille, de texte. Vous avez lu quoi?
Moi, j'ai lu un article qui explique justement ce que je viens d'expliquer, qui explique les liens et les règles à suivre dans la rue.
C'était un article de sociologue, de psychologue?
C'était un sociologue nommé Thibaut Bezosis.
D'accord. Et toi, Charline, t'as lu quoi?
Un article nommé Le fractionnement social par Édouard Gardelas, c'est un sociologue.
D'accord. Okay. Et toi, il a accentué plus sur quoi?
Plus sur les tensions entre les aides d'urgence et le besoin de stabilité, donc ce qui définit les limites de la fraternité dont j'allais justement vous parler. Donc déjà, la fraternité, elle naît naturellement entre les sans-abri. Et les systèmes d'aide d'urgence vont venir fragiliser cette fraternité. Donc l'instabilité imposée par l'État va entraver les liens qui se sont déjà construits ou qui étaient aptes à se construire. Donc on a un problème majeur qui est pointé par Édouard Gardella dans son étude sur le fractionnement social dont je viens de vous parler. Donc c'est selon la précarité, c'est pas uniquement un manque de logement. Il y a aussi des précarités administratives et temporelles. Ils sont sans cesse dans un présent continu, car ils sont pris dans un cycle. Ils doivent changer de centre chaque nuit, appelé le 115, se déplacer entre lieux de sommeil, de repas et de soins qui ne sont pas regroupés, qui peuvent être à l'autre bout de la ville chacun. Donc on a une mobilité contradictoire, ce qui fait que la fraternité est difficile à institutionnaliser et les liens stables sont fragilisés. Donc le fait de séparer ces services, ça va créer de la fatigue, du stress et de l'isolement chez toutes les personnes qui en bénéficient. Donc ils vont essayer de s'adapter, ils vont créer des stratégies d'adaptation, donc des accoutumances pour survivre, mais le système va empêcher la construction d'une communauté durable. Donc les systèmes d'aide, bien que nécessaires, ils vont créer une désynchronisation menaçant tous les acteurs et ça va offrir une survie plutôt immédiate et pas un lien social. Donc la lutte contre la précarité, elle devrait viser plus que la simple distribution de repas et un toit pour juste quelques nuits, quelque chose de plus stable. Et donc nous demanderons comment cette prise de conscience peut amener à un parti pris actif pour rétablir la Delphité.
Et alors du coup, ça c'est hyper intéressant, j'avais jamais entendu ça, donc c'est passionnant. Mais du coup, est-ce que ce sociologue ou vous-même, vous avez entrevu des pistes pour que justement cette aide, parce qu'on peut à la fois se dire que l'aide de la nourriture, du logement, alors on sait bien que l'État peut aider aussi les sans-abri pour pas qu'ils gênent les autres, hein, il y a cette idée-là qu'éventuellement ils seraient gênants, donc l'État interviendrait aussi pour ça, mais du coup comment faire pour que effectivement cette solidarité spontanée entre sans-abri, elle puisse continuer à exister tout en ayant quand même un soutien minimal ou peut-être différent justement du coup de l'État. Est-ce que vous avez des pistes?
Par exemple, l'association La Cloche à Toulouse, elle permet de créer des liens entre personnes à la rue et personnes non, enfin, ils font des activités. Par exemple, tous les jeudis, il y a quelque chose qui s'appelle le café culture. Donc c'est un moment où ils peuvent, où on se rejoint dans un café et on fait des jeux, on parle d'un thème. Et on prend à boire et on paye à boire du coup à ceux qui ne peuvent pas. Et c'est un moment de partage convivial. Il y a tous les mardis, il y a la pétanque. Ils font une pétanque dans un lieu pas loin de la gare Matabio avec des bénévoles et des personnes à la rue. En fait, leur but, c'est de créer des moments de conviviaux entre les personnes à la rue et les personnes autres pour leur créer un moment de répit dans leur quotidien quand même assez compliqué.
Ok. Ben c'est chouette ça. Et du coup, vous, ça vous a incité éventuellement à participer à ce genre de choses ou parce que en fait, vous ne nous avez pas dit, vous avez choisi ce sujet, pourquoi, à titre personnel? Pourquoi vous, ça vous a attiré ce sujet?
Parce qu'on est consciente de notre chance de vivre dans des familles favorisées et donc on voudrait essayer
d'aider du mieux possible.
En tout cas, de vous intéresser à cette
question.
C'est
ça, oui. Et par exemple, pour ma part, j'ai fait mon stage de seconde avec La Cloche. Du coup, ça m'a permis de bien me mettre dedans. Et c'est comme ça que j'ai connu l'association. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler dans ce projet.
Ok, d'accord, super. Est-ce que vous voulez rajouter des choses ou Ouais.
Non, c'est bon.
Est-ce que je peux juste poser une question?
Si, Charline, elle a des choses à dire en plus.
Non, non.
Ah si, bien sûr, tu peux poser une question.
Moi aussi, j'en ai une.
Du coup, j'avais une question pour vous. Quels acteurs, associations, citoyens, institutions jouent un rôle important dans la lutte contre la précarité?
Alors déjà, on a forcément les citoyens et les associations des terrains qui sont omniprésents, on peut dire. Ensuite, on a les travailleurs sociaux et les structures d'urgence. Et enfin, les institutions telles que l'État et les mairies.
Okay. Merci beaucoup.
Et
non, mais c'était à peu près la même question.
Mathilde, c'était la même question. Ouais, et du coup, vous vouliez rajouter quelque chose alors? Parce qu'il y avait,
non,
je sentais
bon,
que Charline avait quelque chose à rajouter.
C'est bon, on a
moi, je tenais à rajouter que la rue, c'est pas un endroit de chaos, mais plutôt une société parallèle. Et pour que cette adelphité puisse s'élargir à toute la société, il est nécessaire de corriger les failles du système d'urgence qui fragmente actuellement des vies, donc je le rappelle, 10% de la population mondiale.
Ok. Merci. Du coup, on va laisser Raphaël, Mathilde et Myrtille présenter leur approche du sujet, parce qu'eux aussi, ils ont travaillé sur les sans-domicile fixe.
Oui.
D'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si vous aviez en termes de vocabulaire sans-abri, vous aviez plutôt choisi le terme sans-abri, vous aviez plutôt choisi le terme sans-domicile fixe.
Ouais,
vous y voyez une différence ou pas? Je vous pose la question à tous les
cinq. Pour moi, sans-domicile fixe, c'est quelque chose, tu peux quand même te déplacer, alors que sans-abri, c'est tu n'as pas de toit sous lequel vivre.
D'accord. Et oui. Vous êtes d'accord avec cette proposition de définition?
Pour moi, être sans domicile fixe, c'est être dans une situation d'instabilité de logement. dans une situation d'instabilité de logement. Et c'est sûrement pas la même instabilité, mais les sans-abri, c'est, ça reste les gens qui n'ont pas de toit ni rien. Donc pour moi, c'est globalement pareil.
Oui, la même chose.
Oui, pareil aussi.
On voulait faire une petite présentation de notre sujet ?
Donc on va vous expliquer comment la Delphité peut favoriser la réinsertion sociale des personnes sans domicile fixe en France. Donc tout d'abord, la Delphité est une valeur qui désigne la solidarité, l'entraide et l'égalité entre tous les individus, sans distinction. Elle repose sur l'idée que chacun mérite le respect et la possibilité de participer pleinement à une société. Pour les personnes sans domicile fixe, l'un des principaux problèmes est l'isolement. En développant la Delphité, nous pouvons créer davantage de liens sociaux grâce à des actions de proximité, des activités collectives ou simplement en favorisant les échanges entre citoyens. Ces relations permettent aux personnes concernées de retrouver confiance en elles et de se sentir intégrées pour la communauté.
Ok, donc la Delphité, ça aide à lutter contre les préjugés. Donc les personnes sans domicile, elles sont souvent victimes de stigmatisation. Donc, donc ça complique leur accès à l'emploi, au logement ou certains services. En encourageant l'écoute et la compréhension, on change le regard porté sur elles et on facilite leur réinsertion. De plus, cette valeur, elle encourage la participation de chacun à la vie collective. Les personnes sans domicile peuvent être associées aux projets et aux décisions qui les concernent et elles deviennent alors actrices de leur propre parcours plutôt que simples bénéficiaires d'une aide.
Enfin, la Delphité renforce la coopération entre les citoyens, les associations et les institutions. Donc ensemble, ils peuvent offrir un accompagnement plus humain et plus efficace vers le logement, l'emploi et l'autonomie. Donc pour conclure, la Delphité, c'est un levier important pour la réinsertion sociale des personnes sans domicile fixe. En favorisant la solidarité, le respect et l'inclusion, elle permet non seulement d'améliorer leurs conditions de vie, mais aussi de leur redonner une place au sein de la société.
D'accord. Vous voulez leur poser des questions
Moi j'ai une question. Ouais. Est-ce que vous pensez que la fraternité, c'est un moteur qui a été oublié dans la réinsertion sociale en France ?
Oui, la fraternité peut être considérée du coup comme un moteur essentiel. Essentiel de la réinsertion sociale, mais elle est aussi parfois très sous-estimée. Les aides matérielles comme le logement ou l'aide financière sont vraiment indispensables, mais elles ne suffisent pas toujours. Je te laisse continuer.
Le soutien humain, l'écoute et le sentiment d'être accepté permettent aux personnes en difficulté de retrouver confiance en elles et de reconstruire leur place dans la société. La fraternité complète donc l'action des institutions et favorise une réinsertion durable.
Moi aussi j'ai une question. D'après vous, quels sont les obstacles qui empêchent les citoyens de faire preuve de fraternité envers les sans-abri ?
Selon nous, plusieurs obstacles peuvent freiner les gestes de la fraternité. Donc d'abord, on a les préjugés, les stéréotypes qui poussent certaines personnes à juger les sans-abri sans connaître leurs histoires. Ensuite, la peur, le manque de temps ou l'indifférence qui peuvent empêcher le contact. Et certains citoyens pensent que l'aide aux personnes sans-abri relève uniquement de l'État ou des associations, ce qui les décourage d'agir personnellement.
Et justement, vous, est-ce que déjà vous avez agi dans ce domaine ou est-ce que vous avez envie d'agir dans ce domaine ? Et là, vous avez rencontré une association.
Oui.
Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
On a fait les maraudes avec la Croix-Rouge. Donc ça consistait à... c'était différentes heures à chaque fois, on y allait deux fois. On y a été à une fois à 9h et une fois à... c'était 19h il me semble ou 18h. Et donc c'est une association qui consiste à distribuer des repas chauds l'hiver et tranquilles l'été pour donc aux sans-abri pour les aider à mieux... je sais pas comment expliquer. C'est pour les aider à mieux
vivre
tout en restant dans la rue pour essayer d'améliorer leurs conditions et leur vie. Quoi.
Et alors, à qui font appel, à quel bénévole, enfin, qui sont les bénévoles qui viennent dans ce genre d'association ?
C'est tout le monde. Ceux qui veulent participer peuvent s'inscrire. C'est pas du tout une association. Bon, après, forcément, il y a des gens qui sont plus engagés et du coup qui organisent ça. Donc, eux, c'est leur. C'est leur boulot, quoi. Mais après, les bénévoles, ils peuvent changer à chaque fois. Quand on s'engage, c'est pas obligé de revenir à chaque fois. C'est vraiment basé sur la motivation et l'envie personnelle sur le moment. Donc.
Et alors, du coup,
Moi, j'ai une dernière question. Avant de réinsérer quelqu'un, est-ce que pour vous, il faut redonner un rôle dans la société?
Bah, oui, il est important de redonner à une personne un rôle et une utilité sociale pour faciliter sa réinsertion. Parce que se sentir utile, reconnu et respecté, ça renforce l'estime de soi et la motivation à avancer.
Ouais.
Et du coup, cela peut passer par le travail mais du coup, bénévole, la formation, la participation à des projets collectifs.
Moi, j'avais un